France Musique. Musicopolis. Vienne. La vie musicale à Vienne au début des années 1790 est tout à fait intense. On fait de la musique dans les appartements, dans les hôtels particuliers, dans les théâtres, à l'église. Cependant, en dehors des théâtres publics, il n'existe pas encore de lieu pour donner des concerts publics et accessibles à tous, comme à Londres ou à Paris. On pourrait donc penser que les compositeurs viennois hésitent à composer des symphonies ou autres œuvres pour orchestre, qui vont difficilement trouver à être jouées. Et pourtant, non, ils n'hésitent pas. Paul Wranitzky, par exemple, en écrit une cinquantaine entre les années 80 et sa mort en 1808. La symphonie en ut mineur, opus 11, de Paul Wranitzky, a été publiée en 1791. Nous ne savons pas grand-chose d'autre la concernant. Si ce n'est que parmi les 51 symphonies de ce compositeur, elle a retenu l'attention des musiciens d'aujourd'hui et, comme 4 autres seulement, elle a été enregistrée, et même 2 fois. Alors à défaut de connaître les circonstances exactes de la création de l'œuvre, je vous propose de faire un petit tour de la Vienne musicale de son époque. Je vous disais qu'il n'y a pas à Vienne, vers 1790, d'institution de concert public. Et pourtant, il s'en donne un grand nombre chaque année dans la capitale autrichienne. Les lieux sont nombreux. Certains sont ouverts au public, qui en a les moyens. Il y a d'abord les 2 théâtres où sont représentés les opéras, le Burgtheater et le Théâtre de la Porte de Carinthie. Il y a aussi les salles de bal, comme la Mehlgrube, les restaurants, comme celui de Jahn. Il y a aussi des lieux privés, les loges maçonniques, les associations comme la Société des musiciens, et bien sûr, les riches et hauts personnages qui peuvent entretenir un orchestre. Paul Wranitzky a des liens privilégiés avec le Burgtheater. C'est là qu'il est violoniste depuis 1787 et qu'il deviendra bientôt chef d'orchestre. Auparavant, il a travaillé dans l'autre théâtre, celui de la Porte de Carinthie, mais celui-ci a fermé. Il rouvre justement en cette année 1791. Les théâtres sont sujets à de fréquents changements de régime. On les ouvre, on les ferme, on engage une troupe, on la renvoie, on veut entendre de l'opéra italien, puis de l'opéra allemand, on revient à l'italien. Bref, lorsque vous êtes un amateur viennois, il vaut vraiment mieux vous tenir au courant. Mais au fait, qui est ce « on » qui fait la pluie et le beau temps? Eh bien, c'est l'empereur, tout simplement. Ou plutôt, les empereurs. Celui qui a fermé le théâtre de la Porte de Carinthie est Joseph II, Mort en 1790, celui qui le rouvre est son frère et successeur, Léopold II. Joseph a été un empereur assez éclairé, qui a réformé son pays en profondeur. Il a notamment déclaré la liberté des théâtres, suscitant ainsi l'ouverture de nouveaux lieux et la vocation de nouvelles troupes. Pour ce qui est des deux théâtres principaux, le Burgtheater et celui de la Porte de Carinthie, c'est Joseph lui-même qui nomme un directeur et qui s'occupe avec lui de tout diriger sans impresario. Au Burgtheater, on joue essentiellement des opéras italiens, c'est là qu'on a donné ceux de Mozart. Quant à celui de la Porte de Carinthie, il réouvre justement en 1791, sous Léopold II, après avoir été fermé quelques années. Il propose des opéras seria, des ballets et des opéras bouffes plutôt légers. Pour Paul Wranitzky, faire partie de l'orchestre de ces deux théâtres est l'assurance d'être au centre de ce qui se passe à Vienne. Et puis, entre les actes des opéras, il arrive qu'on puisse jouer une symphonie. Paul Wranitzky est né en Moravie, l'une des provinces de Bohême soumises alors à l'Empire des Habsbourg. Il a d'ailleurs germanisé son nom en arrivant à Vienne en 1776. Il a changé l'orthographe de son patronyme, le V devenant W. Quant au prénom, de Pavel, il est passé à Paul. Il vient d'une famille de fermiers du village de Novariche, entre Prague et Vienne. Il n'y a aucun musicien dans la famille de Pavel Wranitzky, si ce n'est son jeune frère Antonin, qui suivra les traces de son aîné. Mais en revanche, le couvent des Prémontrés, qui se tient dans son village et où il va à l'école, est d'un très bon niveau culturel et en particulier musical. Pavel entend donc beaucoup de musique, religieuse bien sûr, mais aussi profane, musique instrumentale et même opéra. Thank you. C'est sans doute de son village de Nova Riche que Pavel Vranitsky tient cette qualité pastorale qu'on trouve dans beaucoup de ses œuvres, notamment l'adagio de sa symphonie en ut mineur. Ce ne sont pas seulement des éléments de caractère pastoral qu'on trouve chez Vranitsky, mais aussi des traits franchement populaires. Dans le troisième mouvement de sa symphonie en ut mineur, Vranitsky réussit à mêler les éléments du menuet, la danse de bal telle qu'on la pratique à Vienne, et un caractère populaire venu certainement de ses origines moraves. Tout cela dans le langage du classicisme viennois le plus pur. En 1776, à même pas 20 ans, quittant sa région de Moravie, Pavel Vranitsky arrive à Vienne pour poursuivre ses études de théologie. Il ne se destine pas alors à la profession de musicien, mais il a reçu une bonne formation. Il joue du violon, de l'alto, du clavecin, de l'orgue. C'est justement la pratique de l'orgue qui va le faire embaucher comme maître de chœur dans son séminaire. Au bout de quelques années, il va lâcher complètement la théologie pour se consacrer à la musique. Il est engagé par un comte Esterházy, lointain cousin du patron de Haydn, qui a un palais à Vienne et plusieurs autres en Hongrie. Il est probable que Vranitsky a de fréquentes occasions de rencontrer Haydn. Il a peut-être même étudié avec lui, et en tout cas, il s'est sérieusement plongé dans l'étude de ses partitions. Vienne, dans les années 1780, au moment où Pavel, devenu Paul Vranitzky, commence sa carrière, est une très grande capitale pour la musique. On y trouve énormément de fonctionnaires de haut niveau. D'une part, toute l'administration autrichienne proprement dite, et d'autre part, tous les employés de l'Empire qui gèrent les différentes possessions des Habsbourg. Et dans la ville se retrouvent tous les nobles de Bohême et de Moravie, de Hongrie, de Transylvanie, de Croatie, de Lombardie, de Brabant, de Luxembourg. Toutes ces familles aristocratiques forment un public de choix pour les musiciens qui savent pouvoir trouver des auditeurs pour leurs concerts et des acheteurs pour leurs partitions. En 1781, le jeune Mozart, âgé de presque un an de plus que Vranitzky, quittant le service de l'archevêque de Salzbourg, écrit à son père que Vienne est « le meilleur endroit au monde pour exercer sa profession ». À Vienne, puisqu'il y a un public d'amateurs éclairés et de mécènes, les musiciens viennent nombreux pour tenter leur chance. Paul Vranitzky a l'occasion de faire connaissance avec un grand nombre de collègues venus des autres parties de l'Empire. Par son patron, le comte Esterhazy, il est introduit dans une loge maçonnique. Elles fleurissent un peu partout en Europe à cette époque. Mozart est dans la même, et leurs œuvres sont entendues au même concert. Il est probable que, tout comme Mozart, Vranitzky se produit dans de nombreux endroits et qu'il sait où faire jouer ses œuvres. En 1789, il obtient un immense succès avec un opéra allemand, Oberon. Paul Vranitzky va obtenir en 1789 avec cet Oberon le plus grand succès de sa vie. L'œuvre va être rejouée très souvent et notamment au couronnement du nouvel empereur Léopold II fin septembre 1790 à Francfort. À cette occasion, Vranitzky se fera entendre 24 fois, preuve qu'il a ses entrées à la cour. C'est là qu'il fait la connaissance personnelle de l'éditeur Johann André d'Offenbach. Vranitzky va le mettre en contact avec Haydn, André, quant à lui, se chargera de publier la plupart des œuvres à venir de Vranitzky, en particulier sa symphonie en ut mineur. Dans le courant de 1791, lorsque sa symphonie en ut mineur est publiée, Vranitzky a 35 ans. Renommé comme compositeur, il l'est aussi comme violoniste. Il a ses entrées à la cour, il a le soutien de familles aristocratiques comme les Esterházy. Il écrit beaucoup de musique de chambre à destination des amateurs. Il défend ses œuvres en se faisant publier et il essaye même de se faire connaître à Londres. En quelques années, il est devenu une figure marquante de la vie musicale viennoise et il a encore de nombreuses œuvres à venir. Le final de la symphonie opus 11 numéro 1 en ut mineur de Pavel Vranitzky, ou Paul Vranitzky comme vous voulez, The London Mozart Players, dirigé par Matthias Bamert. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jai Zantaous pour le mixage, Max Dosholm pour les recherches, Clément Diaz pour le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.